Bonjour à tous, bienvenue sur les antennes de Principe Actif et d'HDR. Le pire reste à venir, le pire c'est qu'on ait fini par le croire. Big up à toutes les équipes salariées et bénévoles de nos deux antennes. Et puis surtout à vous, amis auditrices et auditeurs, en ce vendredi 27 septembre 2019. On commencera évidemment par peut-être vous parler en quelques mots dans un instant de ce qui se passe en ce moment à Rouen. Et nos pensées vont à tous nos amis rouennais qui nous écoutent en ce vendredi matin. On prendra quand même le temps également de vous parler du salon du livre de Verneuil-Davray-Ditton. Ça se passe ce dimanche 29 septembre à Verneuil-Davray-Ditton évidemment. On y sera avec la radio Principe Actif pour vous faire vivre l'événement. Et on écoutera en l'occurrence Madame Martine Anfray, présidente de LIRE à Verneuil, qui organise ce salon du livre. On aura peut-être l'occasion d'écouter un extrait ou deux de micro-trottoir consacré à la littérature, voilà, pour faire le lien. Et puis, on vous parlera sans doute du regretté Jacques Chirac avec l'ami Olivier qui nous viendra nous narrer, nous conter peut-être une rubrique nécro consacrée à notre ancien président de la République avec l'ami Olivier, donc en seconde partie d'émission. Mais avant d'attaquer par de la musique, de la bonne humeur, des bons plans, du bon son, enfin voilà, comme on aime à le faire tous les matins, je voulais revenir en quelques mots. Ça risque d'être peut-être un peu long, mais ça m'a paru un poil pertinent de vous le lire ce matin parmi toutes les choses qu'on pouvait lire et voir, entendre sur cet incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Le site d'information Rouen dans la rue, site internet et réseaux sociaux, nous a fourni un papier qui circulait hier sur les réseaux. Et je vais prendre le temps de vous le lire ce matin parce que ça m'a paru important. Donc c'est daté d'hier et le titre du papier c'est « Lubrizol, les questions qui fâchent ». Si l'incendie de l'usine Lubrizol a largement été couvert par les médias, beaucoup de questions restent sans réponse et les questions les plus importantes sont ignorées. Pourtant, ce genre de drame nous permet d'apercevoir une certaine vérité à propos du monde dans lequel nous vivons. Nous comprenons alors que les catastrophes ne commencent pas au moment où les usines et les centrales nucléaires explosent. C'est ce monde lui-même qui est la catastrophe. Qu'est-ce que l'usine Lubrizol? Que fait-elle? À qui appartient-elle? Lubrizol fabrique des additifs pour lubrifiants, l'huile, carburant et peinture. L'usine de Rouen, créée en 1954, compte 400 employés. Elle appartient au conglomérat Berkshire Hathaway, dirigé par le milliardaire américain Warren Buffett, troisième homme le plus riche du monde selon le classement Forbes, avec une fortune estimée à 82,5 milliards de dollars. En 2013, un accident industriel avait déjà eu lieu sur le site, entraînant la fuite de mercaptan, un gaz nauséabond. Le même incident s'était déjà produit en 1975 et en 1989. Un départ de feu a également eu lieu le 3 septembre dernier, c'était au Havre. L'usine n'en est donc pas à son premier accident, elle semble même plutôt coutumière du fait. L'usine Lubrizol est classée Seveso, seuil haut. Elle se situe en centre-ville, sur la commune de Rouen même, est entourée d'habitations, au cœur d'une métropole de plusieurs centaines de milliers d'habitants, se trouvant sous les vents dominants. Qu'est-ce qu'un site Seveso? En 1976, une explosion se produit dans l'usine chimique située sur la commune de Seveso, dans le nord-ouest de l'Italie. Un nuage de dioxine s'échappe de l'usine et contamine les sols, la végétation, le bétail et la population alentour. Suite à cette catastrophe industrielle majeure, une directive européenne est émise en 1982. Elle a depuis été complétée et renouvelée à de nombreuses reprises pour permettre d'identifier les sites industriels présentant des risques d'accidents importants. Les sites Seveso sont classés en fonction du type de produit et des risques qu'ils représentent. 110 sites sont classés Seveso en Normandie, 25 dans la métropole de Rouen et 58 en seuil haut. La DREAL, Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, est chargée de contrôler les sites Seveso et doit régulièrement y réaliser des inspections. Qu'en était-il dans l'usine Lubrizol à Rouen? Quelles étaient les règles de prévention d'incendie? Ont-elles été respectées? À l'heure où le gouvernement décide de réduire certains budgets consacrés à la protection de l'environnement, les moyens alloués à la DREAL étaient-ils suffisants? Quelles sont les substances rejetées dans l'atmosphère? Quels sont les risques pour la santé à court et long terme? Au-delà des images impressionnantes de l'incendie, la question se pose des conséquences d'un tel accident pour la santé des riverains et pour l'environnement en général. Une pollution grave de la Seine en raison des débordements des bassins de rétention est déjà envisagée. L'usine, qui est encore en train de brûler, contient des quantités importantes d'hydrocarbures et autres produits chimiques. 2500 tonnes d'hydrocarbures sont stockées sur le site entourant directement l'usine. Les combustions incomplètes d'hydrocarbures peuvent générer des hydrocarbures polycycliques, aromatiques, HPA, fortement cancérogènes. On en trouve par exemple dans la fumée de tabac. Un coup d'œil à la fiche toxicologique du benzoapyrène, représentant de la type des HPA, donne une bonne idée de la dangerosité de ce type de substance. Face à ces accidents de ce type, comme dans le cas du nucléaire, nous nous sentons impuissants parce que nous ne disposons pas d'autres informations que celles des autorités veulent bien nous communiquer. La pollution de l'air, de l'eau, de la terre, des aliments nous apparaît comme un problème complexe, technique, si bien que l'on se voit vite contraint de déléguer la prise en charge de ces questions à des experts patentés. Mais la vérité arrive souvent trop tard lorsque les conséquences sur la santé sont déjà irréversibles. Dans un monde où de tels événements sont hélas appelés à se reproduire toujours plus fréquemment, la réappropriation collective du savoir, des moyens de mesure, de la connaissance des poisons produits par l'industrie apparaît comme une nécessité. Qu'est-ce qui cloche dans la communication gouvernementale ? Comme d'habitude dans ce genre de cas, la communication du gouvernement, préfecture, ministre, service d'État se veut rassurante, quitte à frôler le déni ou la contradiction. La palme de l'euphémisme, tout sauf rassurant, revient sans doute au ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui, venu se faire photographier auprès des pompiers, déclarait hier matin « Comme tout panache de fumée, il comporte un certain nombre de produits dangereux, mais selon les analyses réalisées ce matin, pas de dangerosité particulière, même s'il faut éviter d'inhaler ces fumées. » En bref, aucun danger, mais évitez quand même d'inhaler, parce que c'est quand même peut-être bien un peu dangereux. Les éléments de langage habituels sont déployés. Il ne faut pas céder à la panique, l'incendie est maîtrisé, même si l'on apprend qu'il faudra des jours pour l'éteindre en raison d'un feu complexe techniquement. On nous promet la transparence, de l'information en direct de la population, on met en place des cellules psychologiques. Le panache de fumée a beau être anxiogène, les résultats des premières analyses sont rassurants, selon Pierre-André Durand, préfet de Normandie. Que ce soit en matière de pollution environnementale ou de violence policière, les gouvernements sont coutumiers du mensonge, de la désinformation et de la minimisation. Les informations livrées par les autorités sont donc à considérer avec la plus grande prudence. Que nous dit l'incendie de Rouen du monde dans lequel nous vivons ? Dans ce genre de circonstances, le plus grave est qu'à aucun moment les différents acteurs à qui la parole est donnée, représentants de l'État, politiques, experts, médias, ne posent les questions qui fâchent. Pourquoi existe-t-il de telles usines dans nos villes ? Et pourquoi existe-t-il encore de telles usines tout court ? Quelle est leur raison d'être ? Au nom de quoi notre santé, celle de nos proches et de nos enfants, est-elle constamment mise en péril ? Existe-t-il un lien entre la fortune de M. Warren Buffett et la pluie noire qui s'abat sur nos têtes depuis hier matin ? On envisage trop souvent les ravages de l'industrie à travers le seul prisme de l'accident, lorsqu'éclate au grand jour l'horrible vérité qui se cache derrière les murs des usines que nous longeons quotidiennement. Mais le terme d'accident n'est peut-être pas approprié, tant ces sites industriels et la logique du profit qui justifie leur existence contiennent dans leur fonctionnement normal l'exposition potentielle de ceux qui y travaillent et de ceux qui y vivent aux alentours à la maladie et à la mort. Combien de Seveso, Bhopal, Tchernobyl, Fukushima ou autres Lubrizol faudra-t-il encore pour comprendre qu'il ne s'agit pas là de regrettables accidents industriels ? Combien de pluies toxiques, d'empoisonnements massifs, d'épidémies de cancer pour arriver à la conclusion logique que toutes ces industries mortifères des hydrocarbures, de la chimie et du nucléaire ne sont pas à contrôler, à réguler ou à sécuriser, mais tout bonnement à abolir.
Il y a encore des têtes à couper, il y a encore des rois dézingués. Allons camarades, pas question de se rendre. Il y a encore des forteresses à prendre. Allons camarades, la lutte n'est pas finie. Dressons des barricades et armons nos fusils. Il y a encore des prisons à faire péter. Il y a encore des lois à abroger. Il y a encore des bourgeois à Montmartre. Il y a encore des ministres à abattre. Allons camarades, la lutte n'est pas finie. Dressons des barricades et armons nos fusils. Il y a encore des clochards plein nos villes. Il y a encore des curés pédophiles. Il y a encore des salauds à l'abri. Il y a encore des crimes impunis. Ouais, allons camarades, la lutte n'est pas finie.
dressons des barricades et armons nos fusils.
Il y a encore des gens qui ont peur, il y a encore des voisins délateurs, il y a encore des Français au garde à vous, il y a encore des hommes pires que des loups.
Allons camarades, la lutte n'est pas finie, dressons des barricades et armons nos fusils.
Il y a encore des politiciens véreux, il y a encore des actionnaires odieux, il y a encore des patrons sans scrupules, il y a encore toute une bande de gros nuls.
Allons camarades, la lutte n'est pas finie, dressons des barricades et armons nos fusils.
Il y a encore des mouvances fascistes, il y a encore des porcs en tête de liste, il y a encore pas mal de têtes à claque, il est grand temps de monter à l'attaque.
Allons camarades, la lutte n'est pas finie, dressons des barricades et armons nos fusils. Allons camarades, la lutte n'est pas finie, en route vers la victoire, restons unis.
Nono Futur avec le morceau Goulag 666. Nono Futur, c'est évidemment un groupe rouennais et on salue de ce matin tous les Rouennais qui nous écoutent.
Ouais, salut la matinale.
Hi, principe actif.
Bonjour.
Foutez-moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
I like a mauvaise mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Et 95.9 dans le sud du département de l'Eure et 99.1 du côté de Rouen et son agglomération, évidemment.
Bonjour, c'est Thomas d'Alternativa. Je vous invite tous du 14 au 29 septembre pour la fête des possibles, retrouver plein d'événements pour un monde plus juste, plus écolo et plus humain. Des randos climat, pique-niques zéro déchet, ramassage de déchets, des ciné-débats, ateliers faire soi-même un peu partout dans l'Eure. À Évreux, Vernon, Giverny, Louviers, Val-de-Reuil. Retrouvez tous les événements sur le site de la fête des possibles ou sur le site du CTCE Alternativa. À bientôt.
Et je vous rappelle que vous pouvez nous laisser vos réactions, vos avis, vos coups de gueule, vos coups de cœur, vos remarques, vos infos, vos annonces d'événements ou tout simplement nous faire des petits bisous. Et pour ça, ça se passe au 02 32 62 57 32, je le répète, 02 32 62 57 32. Voilà, et puis par exemple, les Rouennais pourraient nous laisser un peu leur, pourquoi pas, leur témoignage, leur retour sur ce qui se passe en ce moment à Rouen. Voilà, on se fera un plaisir de diffuser ça lundi matin prochain, fidèle au rendez-vous à partir de 8h sur toutes nos antennes. Voilà, n'hésitez pas à nous laisser des messages ce week-end, je le répète une dernière fois, 02 32 62 57 32. Voilà, n'hésitez surtout pas, on se fera un plaisir de diffuser tout cela. Je vous propose maintenant de parler un petit peu littérature. On parlera dans un instant de l'organisation du prix du Salon du Livre de Verneuil d'Avréditon. Ça se passe ce dimanche. Mais un petit détour dans les rues hébroïciennes pour parler un peu littérature avec les gens que nous avons croisés. Ce micro-trottoir a été réalisé par l'équipe d'Ozone Libre, une équipe haute en couleurs et en mots.
Que lisez-vous ?
Je lis des petites histoires pour mon fils de 6 ans.
J'aime lire, par exemple, faire la lecture sur la rousse. Ça me fait du bien, voilà.
Surtout des policiers, mais pas de ceux qui où il y a beaucoup de sang. Plus genre Agatha Christie, où il y a une énigme, des personnages. Et bon, c'est gentil, et c'est pour me détendre. Je lis pour me détendre, sinon je ne dors pas.
Ben, je lis pas de livres. Je lis pas par la dépêche, mais c'est...
Je lis pas.
Je lis des livres de Michel Bussy.
Pas grand-chose.
Tout sauf, j'aime pas les policiers. Non, ça peut être sur des histoires vraies ou voilà, un petit peu de tout.
Bah, moi, perso, je lis des sagas, quoi, des livres qui ont été réalisés ensuite par film. Harry Potter, il y a quoi d'autre, Hunger Games, Twilight, ouais, des trucs comme ça, quoi.
Eh bien, actuellement, je lis la Bible tous les jours.
Je lis de la littérature,
Je lis des livres d'art, je lis de la poésie.
Je lis des romans et je lis aussi beaucoup de livres d'histoire.
Alors, je lis surtout des romans. J'aime beaucoup les livres policiers et j'aime beaucoup les poèmes.
Je ne lis pas.
Un peu tout.
Rien de particulier.
Qui représente pour vous un livre ?
Ah bah c'est investir dans une histoire, c'est rentrer dans le livre. Il faut que mon fils il se projette dedans. Donc voilà.
Un livre représente pour moi un objet sur lequel on peut avoir de connaissances sur tous les plans. Voilà. C'est comme ça.
Un livre pour moi, c'est vraiment un espace où je suis toute seule, je suis tranquille. Le livre, il est avec moi, mais comme il est très docile et qu'il fait que ce que je veux, je le lis quand je veux. Donc, pour moi, c'est bien parce que quand je suis avec le livre, ma famille sait que c'est même pas la peine de me parler parce que je n'entends pas.
Une histoire, un moyen de se couper du monde.
Des complications pour, compréhension à la lecture.
Un livre. Il y en a, c'est l'évasion. Vous rêvez, vous imaginez, voilà.
De la lecture, quoi. Enfin, je sais pas. Un livre, quoi, de la lecture.
Un livre, c'est important, c'est la connaissance, c'est l'ouverture.
Ça représente soit une source de réflexion, c'est-à-dire que c'est des livres où je prends des notes, qui alimentent ma production, on va dire, soit c'est pour voyager, m'évader. Sachant que n'importe quel livre apprend quelque chose.
C'est quelque chose de très important. Ça permet de s'évader, ça permet d'accroître ses connaissances.
Un livre, alors ça dépend. Ça peut être vraiment un objet que je vais vouloir garder à côté de moi si c'est un bon livre. Et puis ça va être aussi tout ce qui encombre ma bibliothèque avec des dizaines de livres que j'ai accumulés et qui sont nuls et que j'ose pas jeter. Donc c'est à la fois du bonheur et à la fois un poids.
De l'imagination.
On va dire de l'imagination, de l'évasion, une remise en question.
De l'apaisement.
Votre premier souvenir de lecture.
Waouh. C'était il y a plusieurs, après. Je peux pas vous répondre comme ça.
Mon premier souvenir de lecture, c'était sur un livre géographique de l'Afrique, voilà. Principalement de mon pays, à la RDC.
À l'école, quand j'étais en CP, il me semble que la maîtresse, elle nous faisait lire dans un livre, c'était en CE1, qui s'intitulait « Les contes du pays bleu » ou quelque chose comme ça. Voilà, et je l'ai retrouvé, et il est dans la bibliothèque, même s'il est en petits morceaux.
Ah, j'avais 5 ans avec ma maman. J'en ai pas vraiment... Non, j'en ai pas.
Bonne question. La gloire de mon père, par exemple, à l'école, de Marcel Pagnol.
Oh, j'étais jeune. C'était... Oh, oui, ça remonte loin. C'était vraiment des illustrés, vous savez, comme on faisait, nous deux, comme on faisait dans le temps. Hein? Mais là, maintenant, non, c'est... C'est autre chose.
Je sais pas. Je m'en souviens pas.
Ouais, j'étais à la maternelle, rue Isambert.
La comtesse de Ségur.
Je crois que c'est Tintin. Quand j'avais 8 ans, j'ai lu Le trésor de Rackham le Rouge.
Mon premier souvenir de lecture, c'est à l'école maternelle. Quand je commençais à apprendre les lettres, P-A-P-A, papa, et le petit poussé et l'écureuil. J'ai encore les lettres dans la tête.
À l'école.
Tristan Griseux.
Les livres qu'on lisait chaque semaine au collège.
Nous venons d'écouter Altin Gun, le morceau, pardonnez, je vais risque de l'écorcher, mais c'était Tali Dile Güler Yüze.
Oh bah c'est bien, et ça va passer à la télé, non?
Ça va pas passer à la télé, ça va passer à la radio.
À la radio, tiens, et c'est quelle radio alors, sans être...
Oui. Mon principe actif à Évreux.
Oui.
HDR à Rouen.
Oui, bah merci de toutes ces précisions.
HDR, principe actif.
Nous sommes maintenant avec Martine Enfray. Vous êtes la présidente de Lire à Verneuil qui organise la 10e édition du Salon du Livre de Verneuil d'Avre et Diton. Bonjour à vous Martine.
Bonjour.
Ce Salon du Livre 10e édition, ça se passe donc ce dimanche 29 septembre à la salle des fêtes de Verneuil d'Avre et Diton entre 10h et 18h. Ça c'est pour les infos très concrètes. J'ai pas dit de bêtises, Martine, on est bon là sur les premières
oui.
infos que...
Absolument. Bon,
alors tant mieux. Avant qu'on parle de ce Salon du Livre, je veux bien qu'on revienne en quelques mots sur Lire à Verneuil, cette association. Quelles sont un petit peu les missions qu'elle s'est données, ses objectifs, comment elle fonctionne et ce qu'elle fait, hormis l'organisation de ce Salon du Livre.
Oui, alors l'association a été créée il y a 10 ans par la journaliste Geneviève Moll. L'idée de Geneviève était de promouvoir la lecture, notamment dans le sud de l'Eure. Donc on a repris après son décès, on a été plusieurs à reprendre son bébé, si je puis dire. Et donc le salon reste comme l'animation phare de l'association, ça y a aucun doute. Mais toute l'année, on essaye d'organiser des conférences avec des auteurs dans des genres tout à fait différents. Des interventions aussi auprès des scolaires, notamment là, il y a une intervention d'un auteur jeunesse dans une école primaire pour des classes de CM1, CM2. Et on a aussi mis en place à Verneuil les livres voyageurs, qui sont donc des livres qui sont déposés gratuitement, bien évidemment, dans plusieurs endroits de Verneuil. Les gens donc, peuvent retirer les livres, les garder et en remettre d'autres pour d'autres lecteurs. Donc voilà, c'est donc les livres voyageurs, ça porte bien leur nom, c'est des livres qui voyagent de main en main pour partager la culture au plus grand nombre. Voilà en gros nos principales activités.
En effet, donc promouvoir la littérature et la lecture sur le territoire du sud de l'Eure. J'aime bien à rappeler cette statistique de 1,5 livre par an et par habitant, ça pour notre pays, pour la France. En général, on trouve ça ça fait pas beaucoup quoi. C'est quoi votre regard? J'imagine que quand on a ce genre de retour un peu statistique, un peu froid comme ça, on se dit que justement d'avoir une structure et d'organiser des événements comme le Salon du Livre ou les autres manifestations et choses que vous mettez en place dans le sud de l'Eure, ça a tout son sens quoi, de se rendre compte qu'en fait les gens ne lisent plus beaucoup, si tant est qu'ils aient lu beaucoup plus à une certaine époque. Je ne sais pas si vous avez une réaction à ces considérations un peu générales.
Oui, c'est effectivement très général, parce qu'un livre et demi, après tout dépend effectivement de la catégorie, catégorie sociale, de l'emplacement géographique. En règle générale, en ayant été libraire pendant 35 ans, je pense personnellement que c'est un petit peu plus quand même. Je dirais plutôt 3 livres par an. Et un peu plus chez les enfants. Les enfants sont de plus en plus dévoreurs de livres quand même. D'année en année, il faut dire qu'il y a une offre éditoriale extrêmement importante pour les enfants et les enfants lisent un peu plus, me semble-t-il. Après, effectivement, promouvoir la lecture, c'est aussi un salon comme ça, c'est ou une association comme ça, c'est promouvoir la lecture et puis que tout soit gratuit, c'est-à-dire que chacun puisse venir se servir gratuitement, découvrir gratuitement les livres. Et ça, c'est vraiment très important parce que c'est souvent un frein à l'achat de livres. Un roman qui sort, on est en pleine rentrée littéraire, un roman actuellement, c'est quand même 21 €. Donc, c'est quand même un coût assez important. Donc, le but d'une association comme ça, c'est de donner accès à la lecture. Donc, évidemment, avec des partenariats comme les médiathèques, les MJC, pour donner accès à la lecture au plus grand nombre. Et surtout, donner envie aux gens d'aller vers le livre, ce qui n'est pas toujours facile pour certaines catégories sociales, de passer le pas d'une librairie ou d'une médiathèque, ça peut être un peu impressionnant. Et donc là, un salon, c'est ouvert, il y a des animations, il y a plein de choses. Donc les gens peuvent venir pour voir les livres, pour voir les auteurs, pour les rencontrer, mais aussi pour participer à des animations autour du livre.
Alors, Alors justement, on va prendre le temps d'en parler. Ce salon du livre de Verneuil, pourquoi c'est important pour vous? Vous avez déjà un peu répondu à cette question. Pourquoi c'est important d'organiser un tel événement? Et ça s'adresse à qui? Vous parliez notamment du fait que les enfants et les plus jeunes n'avaient pas cessé de lire et au contraire, il y avait toute une activité plus particulière qui s'était développée au fur et à mesure des années. Mais à qui s'adresse ce salon du livre et pourquoi c'est important pour vous de l'organiser?
C'est important pour ce que je vous disais avant, c'est pour donner accès à la lecture au plus grand nombre, surtout aussi de pouvoir rencontrer des auteurs, ce qui n'est pas toujours évident, surtout dans nos milieux ruraux, qui sont quand même assez excentrés des grandes villes ou des grandes manifestations. Donc une fois par an, réunir 50 auteurs, plus les animations et les prestataires, c'est donner aussi une vue d'ensemble sur l'édition française et ce qu'elle offre au public. Alors jeunesse, roman, policier, poésie, théâtre, tous les genres de mon salon, enfin notre salon pardon, sont représentés. Et donc chacun peut y trouver un peu sa tasse de thé, si je puis dire. Et pourquoi pas une personne qui rentre dans un salon pour la première fois va découvrir autre chose. C'est aussi amener les gens à découvrir d'autres littératures et d'autres horizons. C'est essentiellement ça le but de ce salon, de faire venir le plus de monde possible à la découverte de la lecture. Alors, d'autant plus que le thème que nous avons choisi cette année, c'est la tête dans les étoiles, donc c'est le rêve, c'est la lecture amène ça aussi. On rêve des étoiles, mais avec le livre, on peut rêver aussi, partir dans l'espace, on peut partir 20 milieux sous les mers, on peut voyager dans tous les sens du terme. C'est en ça que le livre est important et dans la culture générale, quoi.
Cette thématique de la tête dans les étoiles, on pense à l'astronomie, à la science. Je sais qu'il va y avoir notamment la présence parmi les invités de ce salon, des scientifiques, des choses autour de ces thématiques-là. On pense aussi en genre littéraire à la science-fiction. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pensé à ça. Comment on l'a fait vivre cette thématique de la tête dans les étoiles sur cette dixième édition du Salon du Livre? Qu'est-ce que vous avez voulu aller chercher, aller questionner avec cette thématique-là?
Donc c'est ça, c'est la tête dans l'étoile, c'est d'abord rêver, c'est d'abord aller plus loin, aller plus haut. Finalement, on n'a pas vraiment cherché, ce qui était très étonnant dans cette aventure du 10e salon, on est venu à nous, et on est venu à nous avec des propositions absolument étonnantes. Alors on aura des astrophysiciens, il y aura le Spacebus qui sera là, donc c'est une association qui tourne dans toute la France avec des astrophysiciens. On aura aussi une association normande qui va présenter les constructions de fusées à eau, donc les gamins vont pouvoir faire des fusées à eau et les lancer à plus de 20 mètres de hauteur. On a aussi donc des auteurs jeunesse qui ont écrit sur la Lune, sur Mars, et il y a aussi des contes autour de l'espace, donc des jeux, donc des astronomes qui ont 5 ans et qui sont balancés dans l'espace et qui vont devoir jouer de planète en planète, donc pour découvrir le système solaire. Et il y a aussi une conférence qui aura lieu à la MJC, donc le dimanche aussi. Et là, c'est là où c'est étonnant. Ça rejoint un petit peu tous les domaines. Donc là, c'est l'histoire et les camps de concentration. Vous allez me dire, c'est étonnant. Mais en fait, on va se rendre compte avec cette conférence que la première conception de la fusée Apollo, du programme Apollo, est née en fait avec l'ingénieur Werner von Braun dans les camps de concentration de Dora. Donc voilà, l'astronomie, finalement, ça ouvre à toutes les portes. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ce sujet. Et on nous a proposé plein de choses. On a fait un tri, évidemment. Mais donc du coup, on a un panel de d'auteurs et de genres qui couvre énormément de choses, quoi.
Voilà. Alors justement, on va pas avoir le temps de présenter tous les auteurs. Ça y est. On le disait, c'est 50 auteurs, différents genres littéraires qui sont représentés. Est-ce qu'on peut quand même dégager comme ça quelques orientations, quelques directions qui ont été prises, aussi bien dans le choix des auteurs qui seront présents que dans les genres littéraires qu'ils représentent?
Bien sûr, comme je vous disais, il y aura absolument tous les genres littéraires représentés. On peut quand même noter la présence d'Olivier Truc, qui est un écrivain au départ de romans policiers. Il vit en Suède. Et donc il sera présent au salon pour présenter ses policiers bien sûr, et aussi un livre d'aventure dans le Grand Nord qui se passe au XVIIIe siècle, qui est absolument remarquable, et en avant-première, parce que son livre sort le 27, donc deux jours avant notre salon, sur l'histoire des Nobel, du prix Nobel et du scandale qui est autour du prix Nobel qu'il y a eu en 2017. Donc c'est, j'en dis pas plus parce qu'il va falloir découvrir ce livre qui est absolument atypique et remarquable. Il écrit remarquablement bien. Et puis on a aussi M. Mouriot qui vient, Pierre-François Mouriot, qui est un auteur jeunesse qui a écrit notamment un livre très rigolo, mais qui est un vrai best-seller qui s'appelle « Comment on fait pipi dans l'espace ?». Donc là, toutes les questions que les enfants peuvent se poser, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Et effectivement, comment on fait pipi dans l'espace? Comment on mange? Comment on dort? Donc il fera une présentation et une conférence. Et on aura un auteur de polar aussi, Sandrine Détombe, qui a reçu récemment le prix RTL du meilleur policier. C'est très vaste. On a aussi les éditions d'Autrente qui sont là, qui présentent une édition magnifique de poésie et d'architecture. Donc vous voyez, c'est très varié, c'est très vaste. Et on aura bien évidemment aussi des auteurs normands qui seront présents, puisque c'est important d'avoir des auteurs normands, et des premiers romans, beaucoup d'auteurs qui seront là pour la première fois à un salon, qui participeront pour la première fois à un salon. Parce qu'un salon du livre, c'est ça aussi, c'est permettre à des jeunes auteurs et des jeunes éditeurs de se lancer et de se faire connaître. Et ça, c'est très important.
On l'aura compris, l'idée, c'est de pouvoir brasser aussi bien les publics que les auteurs et les propositions, avec des auteurs régionaux, locaux, des personnes plus confirmées, d'autres qui débutent, entre guillemets, dans la profession. Et puis, cet intérêt et cette attention particulière à ce qu'on pourrait appeler de la vulgarisation scientifique, notamment autour de l'astronomie et d'autres choses qu'on a mentionnées à l'instant. Vous parliez également dans notre échange d'animation qu'il y a autour du Salon du Livre. Il y a ce bus qu'on pourra retrouver. Il y a tout un tas de choses dans le programme. Est-ce qu'on peut, on peut détailler un petit peu? Et puis peut-être les liens avec les structures qui vous accompagnent. Je pense à la médiathèque, je pense au cinéma Trianon. Qu'est-ce qu'on retrouve en termes d'animation sur ce Salon du Livre?
Oui, alors on a beaucoup d'animations périphériques et beaucoup de personnes qui se sont motivées pour participer à cet événement. Donc notamment la médiathèque de Verneuil qui va proposer des constructions de mobiles, de planètes. La médiathèque de Bourg, la médiathèque Claude Dany qui a vraiment réussi à avoir une exposition extraordinaire, une exposition des photographies de la Normandie de Thomas Pesquet. Donc la Normandie vue de l'espace, donc de Thomas Pesquet. Il y aura aussi un plaisarium qui accueille 17 personnes, pas plus, à chaque séance. Un plaisarium où on va voir découvrir les constellations et le système solaire. Le Trianon propose donc deux projections de films. Il y aura donc 2001 ou les dossiers de l'espace, qui sera donc en projection le samedi soir, avec une entrée à 4 euros. Et puis on a aussi deux très 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 belles expositions de l'Observatoire de Paris qui nous ont très aimablement prêté deux expositions qui seront donc à découvrir à la salle des fêtes. Et enfin donc la conférence à la MJC qui est notre partenaire aussi, donc sur Werner von Braun dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà.
Un programme chargé. Avec beaucoup de choses, beaucoup de propositions. J'imagine que ça va être difficile pour les parents et les enfants de pouvoir tout faire, mais justement c'est l'idée aussi d'être face à un casse-tête entre guillemets, de devoir choisir. Choisir c'est renoncer, et c'est bien aussi on peut pas tout faire, comme ça on reviendra l'année prochaine. Plus sérieusement, Martine, dernière chose, si on cherche des infos complémentaires, parce que là on n'a pas eu le temps de tout se dire ce matin. Où est-ce que je peux retrouver toutes les infos qui vont bien sur ce salon du livre de Verneuil-d'Avray, dit-on?
Oui, alors vous pouvez les trouver sur le site de la ville, de Verneuil-sur-Avre, où il y a le programme qui est affiché. Sur le site aussi de l'Office de tourisme Normandie-Sud-Eure et sur notre page Facebook, Lire Verneuil, tout attaché. Voilà. Et je tiens aussi à signaler que pour fêter les 10 ans, donc, de la, les 10 ans de notre salon et de notre association, il y aura un tirage au sort, en fin de journée. Il y aura absolument plein de cadeaux à gagner, des livres, des jeux, des gommes spatiales, des masques de martiens. Et il y aura aussi, le gros lot, une liseuse. Voilà.
C'est parfait. C'est parfait. Rendez-vous est pris donc ce dimanche 29 septembre à partir de 10h à la salle des fêtes de Verneuil-Davray, dit-on, pour ce 10e salon du livre avec cette thématique, la tête dans les étoiles, pour l'occasion. Merci à vous, Martine Enfray. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Lire à Verneuil qui organise ce salon du livre. Merci à vous, Martine.
Merci infiniment.
Le bout du delta, répondra que chargé sur la rivière Ota. J'apporte un nouveau souffle, une fraîcheur inédite, un témoignage ardent d'une puissance sans limite. Je sens l'attent en moi, répignement profond, un besoin de briller à la face des nations. Je filerai droit au but, impatient d'exprimer une flamme et une ardeur d'une rare intensité. Ce corps métallique que j'ai ressenti soudain, une envie répressible. Je bouillonne d'enthousiasme à l'idée d'échapper à ce carcan infâme qui me tient prisonnier. La fin jusqu'à Gamma, je rayonnerai vainqueur. Irrésistible aura les ballons de mon cœur. Reviendra en valeur d'enchaîner les réactions. Explosant de bonheur, je déchaînerai les passions.
Voilà, un petit parfum d'hydrocarbures et de particules radioactives avec ce morceau Little Boy de Ludwig Van 88, ils sont censés se produire demain soir au 106 à Rouen. Ça avait été dans un premier temps annoncé comme annulé, tout comme le concert de RK qui a lieu, lui, ce soir. Mais visiblement, les dernières nouvelles laissent à penser que les concerts sont maintenus au 106. Donc vous pourrez peut-être aller voir Ludwig Van 88 ou RK ce soir et demain soir au 106 à Rouen.
Le pire reste à venir tous les lundis, mardis, jeudi et vendredi.
Le pire reste à venir.
Et oui, c'est bien nous et nous sommes heureux d'accueillir l'ami Olivier comme chaque vendredi pour une rubrique nécro. Bonjour à vous, camarade.
Bonjour, bonjour Tim et bonjour tous les mondes au-delà des ondes. Oui, c'est une chronique nécrologique qui s'impose à nous en ce triste matin. Vous le savez déjà, je peux donc vous le rappeler sans risquer de vous plonger dans une stupéfaction sidérante qui provoquerait une embarcadère dramatique à votre véhicule, s'écrasant avec autant de détermination sur la vitrine d'un fast-food américain qu'un troupeau de Black Bloc en 1er mai, ou qui vous ferait lâcher la tartine de pâte à huile de palme de votre petit dernier sur le tapis persan acheté à moins 70% à la foire à tout de Saint-Austroberte. Jacques Chirac est mort hier, 26 septembre 2019. La disparition à 90 ans de notre président de la République pendant 12 ans, Premier ministre deux fois 2 ans, à 10 ans d'intervalle, maire de notre capitale pendant 18 ans, fait se tourner une page entière de notre histoire, une page qu'il incarnait de toute sa taille, sa bonhomie et sa gourmandise. Jacques Chirac, c'est un enfant de Paris qui, hormis un passage chez les grands-parents corréziens pendant la Seconde Guerre mondiale, s'emprunte des habitudes du pavé et de la gouaille. Il lui faut 4 lycées pour avoir son bac et il manque à l'adolescence de rentrer au Parti communiste. C'est sans doute de là que lui vaut certaines expressions populaires, comme lorsqu'il répond à notre ancien maire, Jacques Debré, un jour où celui-ci l'entretenait d'une insignifiance. Ça m'en touche une sans bouger l'autre. Le jeune Chirac, c'est l'Algérie. Il part juste après son mariage avec Bernadette. Il y a peut-être un lien. C'est lui qui choisit la cavalerie sur le front alors qu'on lui propose l'état-major à Paris. Bernadette reste à Paris. Il aime ça, Jacques, la guerre, les frères d'armes surtout, les chants, les toasts, les randonnées dans le djebel et les coups de main dans les villages, ça forme un homme. Il en garde une petite cicatrice sur le visage et le respect des traditions, comme lorsqu'il lève son verre régulièrement aux chevaux, aux femmes et à ceux qui les montent. Ah, la poésie du kaki et le respect de la gente féminine, voilà de quoi asseoir le chef respectueux des Français, à défaut d'être celui respectueuse des Françaises. Après la guerre, Jacques fait l'ENA et la Cour des comptes. Il s'emmerde, mais apprend à compter qu'un sou, c'est un sou et que c'est bien utile un sou pour dépenser. C'est ce qui lui permettra de dire de Nicolas Sarkozy, alors ministre des Finances, en matière de dépenses, j'ordonne, il exécute. Une leçon de régulation de la dette publique pour le jeune homme qu'il tirera à profit à son tour de façon un peu plus bling-bling, mais tout aussi intéressé entre yachts, Phuket et Rolex. Les premières campagnes politiques sont pour la Corrèze de ses 4 grands-parents. On bat les routes sinueuses d'Occitanie pour gagner une voix dans des bleds plus paumés les uns que les autres. C'est beau, mais c'est loin, sera son gimmick à chaque campagne. De ferme en ferme, il apprend l'agriculture, déclarant devant des vaches salaires lors d'un salon, ce ne sont pas des bovins, c'est des chefs-d'œuvre. La campagne, il adore ça. Les campagnes, il adore ça aussi. Il en fait plein. À un moment, il est même conseiller général dans 2 départements en même temps. Il n'oublie pas Paris. Il est de tous les gouvernements, quel que soit le poste, sous De Gaulle, Pompidou, Giscard. C'est qu'il en faut des mandats cumulés pour acheter un château et le retaper avec des pierres venant de la carrière d'origine. Le château de Bitti, qu'il s'appelle, son château. Son Bitti. C'est un peu avec ça qu'il pense, Chirac, d'ailleurs, le Bitti. Marie-France Garraud, Michel Barzac et même Claudia Cardinal cavalent avec le cavalier. Lui qui disait que la pomme est un fruit sympathique, je la regarde tous les jours. Je veux bien croire qu'il la croquait, la pomme, mais je crois qu'il préférait les abricots. Mais son amour pour les femmes a des limites. Lorsqu'il était Premier ministre en 88 de sa consœur britannique, il se demande tout haut « Qu'est-ce qu'elle me veut de plus, cette ménagère, mes couilles sur un plateau ?» Le micro devant était resté ouvert, moins les relations diplomatiques avec la Grande-Bretagne. Enfin, cela ne l'a pas empêché Jacques Chirac de soutenir la libération à outrance de l'économie et le conservatisme politique, la rigueur, proposée par le modèle thatchérien. Il ne faut pas oublier que se passionner de l'Orient, des cultures d'outre-mer et des arts primitifs pouvait comprendre pouvait comprendre que certains de ses concitoyens puissent ne pas apprécier le bruit et l'odeur de ces familles de 4 femmes et 20 gosses qui gagnent 3 500 euros sans bosser. Pourtant, il ne bossait pas beaucoup, lui, pour se faire une collection de masques africains et de manettes de billets dictatoriales. Parce que c'était ça aussi, Chirac. Une période bien réac, avec Pasqua comme premier flic de France, le service d'action civique, les trafics et le fric de la France-Afrique, le soutien aux régimes les plus autoritaires, les essais nucléaires en Océanie, les premiers Black Blocs en 1995, les gendarmes dans l'église de Saint-Bernard et les comptes de campagne frauduleux. J'ai relevé quelques-unes de ces phrases pour vous ce matin. J'aimerais bien parler de ce qu'il a fait plutôt que de ce qu'il a dit, mais entre l'affaire Borrell et les essais nucléaires, j'ai pas la matinée. Alors à la semaine prochaine et en cette saison, mangez des pommes.
Si je suis tombé par terre, c'est pas la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, y avait pas d'olto. S'il n'y a pas plus d'anges dans le ciel et sur la terre, pourquoi faut-il qu'on crève dans le ghetto? Plutôt que d'être issu d'un peuple qui a trop souffert, j'aime mieux élaborer une thèse, qui est de pas laisser à ces messieurs qui légifèrent le soin de me balancer des ancêtres. On a beau être né rive gauche de la Garonne, converser avec l'accent des cigales, ils sont pas des kilos dans la cité gasconne, à faire qu'elle soit pas qu'une escale. On peut mourir au front et faire toutes les guerres, et beau défendre si joli drapeau, il en faut toujours plus, pourtant y'a un hommage à faire à se tomber à Monte Cassino. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau liqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau liqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau liqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau liqueur. La peur est assassine, alors c'est vrai je pénalise ceux qui flinguent les moments comme pas la pelouse en bas. Je suis un rêveur et pourtant ami j'analyse, je suis un érudit et je vous dis,
je suis serbo-croate et musulman, voilà le hic. En fait, polonais, républicain et laïque. Et si certains regrettent de pas être noir de peau, je n'ai qu'une réponse, les gars, vous avez du faux.
Dans les rêves, mais je n'abdique pas pour autant. Si la peur est au bras qui nous soulève, elle nous décime, j'en ai peur pour la nuit des temps.
Elle aime nos rois, mais faut qu'ils gagnent les tournois. Elle aime Bolly, mais a jamais rien aboli. Elle aime nos rois, mais faut qu'ils gagnent les tournois. Elle aime Bolly, mais a jamais rien aboli.
Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Qui a construit cette route, qui a bâti cette ville et qui n'habite pas? À ceux qui se plaignent du bruit, à ceux qui condamnent l'odeur,
je me présente, voici. Je m'appelle Larry Mamadou Juan et faites place Guido Henri Chino Ali. Je ne suis pas de glace, une voix m'a dit marathon. Cherche la lumière du gouffre, j'ai épuisé un combat, la bonne affaire j'en ai bavé. De la peur que j'ai lue dans les yeux de ceux qui ont trois fois rien, qui le croyaient précieux. Quand j'ai compris la loi, j'ai compris ma défaite. Intégrez-vous, disait-elle, c'est des choses faites. Alors
le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur.
Le bruit du marteau piqueur, dans tes oreilles tu finis ta vie et bourdonne les abeilles. Le bruit du marteau piqueur, dans tes oreilles tu finis ta vie, bourdonne les abeilles.
Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur.
Comment voulez-vous que le travailleur français qui travaille avec sa femme et qui ensemble gagne environ 15 000 francs et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 époux et une vingtaine de gosses et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le papier devient fou. Et ce n'est pas être raciste que de dire cela. Nous n'avons plus les moyens d'honorer le regroupement familial. Et il faut enfin ouvrir le grand débat qui s'impose dans notre pays, qui est un vrai débat moral, pour savoir si il est naturel que les étrangers puissent bénéficier au même titre que les Français d'une solidarité nationale à laquelle ils ne participent pas puisqu'ils ne paient pas d'impôts.
Le bruit et l'odeur, Zebda, évidemment, c'est surtout l'odeur ce matin pour nos amis rouennais. On va passer au bon plan, hein, on n'a qu'à faire ça.
Mais tu sais, je commence à en avoir plein le cul. Non mais c'est vrai, c'est pas une raison parce que je donne à tout le monde des bons tuyaux que je mérite pas un peu d'amour.
T'as raison, Huggy, je t'aime.
Ah, c'est pas croyable, il faut que je m'énerve. Pour que tu me le dises, ça te coûtera 30 francs. Payable en deux fois. Qu'est-ce que tu veux comme tuyau ?
Ça commence bien. Vous me le glissiez hors antenne à l'instant, ami Olivier, qui est resté après votre chronique ce matin. Peut-être que le premier des bons plans pour les Rouennais, ce serait peut-être de quitter la ville ce matin si c'est pas encore fait.
Bah oui, moi je pense, ouais. Oui, ce serait pas mal. Serait pas mal d'aller faire un petit tour sur la côte, il y a du vent.
Ouais, on rit jaune ce matin et depuis hier. Bon, on va quand même annoncer quelques petites choses. Voilà, si vous avez le cœur à sortir, et il faut garder le. Faut garder le power.
Le cœur à fuir.
Ouais, comme disent les copains de Pick Up, voilà, on garde le power. Il y a toujours la fête des possibles, par exemple, dans l'heure proposée par Alternative Bar. Approchez-vous des réseaux sociaux pour connaître la fin du programme de la fête des possibles. Proposé donc par les camarades d'Alternative Bar. Je vous le disais, il y a des concerts qui sont visiblement maintenus quand même au 106 à Rouen. Il y a notamment celui de RK ce soir et celui de Ludwig 2088. On en parlait il y a quelques instants. Il y a Normandie Bulle aussi, le festival de BD à Darnétal ce week-end. Voilà, si vous avez envie. Au centre photographique de Rouen, il était censé y avoir également une conférence. Je mets tout au conditionnel hein, maintenant, parce que là, je ne sais pas.
Il n'y a rien hors de Rouen, là.
J'arrive. Ouais. Bon, alors, vous voulez des choses ailleurs qu'à Rouen? Très bien, je vais vous trouver. Il y a par exemple, et tiens, on va en écouter un extrait. Un concert chez Chris, ça se passe samedi soir, Asphalt Touareg en concert au bar chez Chris à Évreux. Ben, on va en écouter un extrait, voilà, je vous ai préparé ça, ça fait plaisir, encore un peu de rock'n'roll. Le morceau s'appelle Out of My Brain, Asphalt Touareg donc.
I'm
of My Brain, les Asphalt Touareg, pardon, en concert ce samedi du côté de chez Chris. C'est à Évreux, évidemment. D'autres concerts comme ça à vous annoncer. Scène ouverte du côté de la MJC Le Silo à Verneuil-d'Avray, dit-on. Les Agités du Bocal, Okam Razor, Little Big Sound. C'est également samedi soir à partir de 20h30. J'aurais voulu en passer un extrême, on n'aura pas le temps. Cédric Mitton en concert, c'est du reggae, ça se passe à la Traverse à Cléon. C'est également demain samedi. Et puis, on en a parlé, mais on vous le rappelle, il y a l'Hébroïcienne, la course à pied. Ça se passe dimanche matin, on y sera avec la radio Principe Actif. Et autre événement dans la journée de dimanche où nous serons avec la radio Principe Actif, c'est le Salon du Livre de Verneuil-d'Avray, dit-on. Oui, c'est ça. Organisé par Lire à Verneuil, on en a parlé tout à l'heure avec Martine Enfray. Projection de cinéma proposée par le CCCP Enfant. Ça se passe au Diable au Corps. C'est dimanche à partir de 14h30, c'est à Rouen. Voilà, c'est déjà pas mal pour toutes ces réjouissances et ces bons plans, en espérant que vous pourriez vous rendre là où vous le souhaitez ce week-end. Nous, on se retrouve lundi matin. On parlera notamment avec les acteurs locaux hébroïciens du Secours Populaire, la section jeunesse qui recrute. On en saura un peu plus avec eux lundi matin. On vous rappelle que vous pouvez toujours nous laisser vos messages répondeurs au 02 32 62 57 32. Je le répète, 02 32 62 57 32. J'en parlais tout à l'heure. Peut-être que les Rouennais ont des choses à nous raconter. On se fera un plaisir de diffuser ça. Là, maintenant, ce sera pour lundi matin. Monsieur Olivier, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous narrer.
Merci à vous.
Cette rubrique nécro de l'ami JC.
Oui, ça en riant, c'est une rubrique nécro. On rit pas sur une rubrique.
Vous s'apprêtez à rire quand même, ce que vous nous proposiez ce matin, non?
C'est les abricots qui vous
croient. C'est oui, entre autres. Mais écoutez, hein, comme dirait le grand philosophe Didier Super, vaut mieux en rire que de s'en foutre.
Oui, certes. Bon, en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine.
C'est ce que j'allais vous demander. On vous retrouve vendredi prochain.
Oui. Macron n'a pas prévenu de venir à Rouen pour l'instant, voir les dégâts. Je suis pas sûr de faire une rubrique nécro sur lui la semaine prochaine.
Je suppute quand même, entre guillemets, sérieusement, qu'il va finir quand même par venir nous voir.
Par venir s'intoxiquer avec les Rouennais. Pas sûr.
Monsieur le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est venu.
Il va rester sur le plateau. Rester sur le plateau est, comme ça,
il aura pas les fumées tant que le vent va vers le nord. Ça pourrait être.
À bon secours.
Ça pourrait être pas mal.
Il y a une bonne vue.
amis rouennais, rouennaises, amis hébroïciens, hébroïciennes, amis habitants du sud de l'Eure, sur Verneuil, Breteuil, Conches et autres, on vous salue bien bas. On vous retrouve lundi matin si tout va bien. En attendant, on vous souhaite une excellente journée à l'écoute des programmes des radios Principe Actif et HDR pour connaître justement le contenu de nos antennes. Eh bien, rendez-vous sur nos sites internet respectifs, principeactif.net, radiohdr.net. On vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes et on vous dit à lundi. Ciao.